Bonsoir chers auditeurs de Radio Courtoisie, vous écoutez l'émission Dissidence musicale animée par Thierry de Cruzy. La musique est l'enjeu d'un combat culturel aussi âpre qu'invisible, car c'est un art immatériel qui pourrait se passer de musique. Elle entretient des liens essentiels dans les sociétés. Le contrôle de ces liens dessine des fronts musicaux que je vous propose de suivre car ils conditionnent l'état de nos sociétés. Alors, sur le front des rave parties, début avril dans les Landes, 2000 raveurs participaient tranquillement à une rave party géante interdite par un arrêté préfectoral. Les gendarmes étaient sur place et avaient mobilisé un hélicoptère pour verbaliser. Les dégâts sont constatés à chaque fois, mais les moyens sont rarement déployés pour les empêcher. Par contre, les gilets jaunes, les agriculteurs, Dieudonné sont persécutés sans problème. Il y a ceux qui ont la liberté totale de nuire et ceux qui sont réprimés. Dans le Nord, 500 raveurs se sont réunis le même week-end. Cette fois, la rave est interrompue par les gendarmes à 2h du matin. Donc, ils peuvent le faire dans le Nord et pas dans les Landes. Une question de moyens ou de choix politiques. Un front musical iranien a été ouvert. Le peuple iranien se mobilise pour affronter l'armée ennemie conduite par un ami d'Epstein. La population reprend des chants de guerre inspirés de figures culturelles et civilisationnelles persanes comme Rostan, le Hercule perse, issu du Livre des Rois, une épopée du Xe siècle. Aux États-Unis, ce front iranien a réactivé le front intérieur des opposants à Trump. Ainsi, le 31 mars dernier, à Minneapolis, Bruce Springsteen a lancé sa tournée « Land of Hope and Dreams », pays de l'espoir et de rêve. Il en fait un manifeste musical contre Trump et déclare « L'Amérique que j'aime », l'Amérique sur laquelle j'ai écrit pendant 50 ans, qui a été le phare d'espoir et de liberté dans le monde entier, est actuellement entre les mains d'une administration corrompue, incompétente, raciste, imprudente et traîtresse. Les productions de l'industrie musicale sont des outils politiques. Il ne s'agit pas des opinions des artistes, mais de moyens d'action sur les masses. Je vous propose d'écouter un extrait du chant iranien. Voici la traduction de son titre « Frappez, frappez car vous frappez fort ». تو رستم تهمتنی تو شیر پیل افکنی تو رستم تهمتنی تو شیر پیل افکنی این فصل آخر است که آغاز میکنیم این بار همه نام حق اجاز میکنیم دریا گواه ماست که فرعون نماندنیست داریم سوی مرک پرواز میکنیم داریم سوی مرک پرواز میکنیم درست دمه دمدنی درست دمه تهمتنی. Alors, la tournée planétaire du groupe BTS montre que demain, la K-pop comptera. La K-pop, vous savez, la pop coréenne. En 2022, le groupe BTS s'était mis en pause pour que ses artistes effectuent leur service militaire obligatoire. 260 000 spectateurs sont venus assister à leur concert du retour, donné gratuitement sur la plus grande place de Séoul et rediffusé sur Netflix. Les annonces sécurité ont été diffusées en anglais, une première en Corée du Sud. Sorti la veille du concert, le nouvel album dépasse les 4 millions d'exemplaires vendus et les 5 millions de téléchargements sur Spotify. 18,4 millions de spectateurs ont suivi le concert sur Netflix. Mondialisé mais enraciné, BTS ouvre sa tournée mondiale avec un album faisant référence à une chanson du répertoire traditionnel coréen, Arirang. Suivant le témoignage d'une fan, BTS est une safe place où l'on peut se réfugier lorsqu'on en a besoin. Je me sens comprise lorsque je l'écoute ou regarde ses clips. Cela fait partie des valeurs, protéger la jeunesse de la pression et apprendre à s'aimer soi-même. La K-pop et BTS, ce n'est pas juste de la musique, c'est une famille. Et encore, la culture coréenne a envahi mon foyer. Changer la vie, c'est le pouvoir des chansons, de la musique. Vous mesurez l'enjeu. La K-pop, comme toutes les cultures, les autres musiques, est utilisée pour influencer les masses. Les fans écoutent la musique qu'ils n'ont pas choisie et manifestent sur des sujets sans rapport pour s'illusionner qu'ils ont une conscience politique alors que c'est de la simple mécanique de groupe. Je vous propose une petite pause musicale dissidente en lien avec la commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel public, la chanson de Patrick Sébastien pour se venger de défiler Ernotte.
Ils m'ont coupé l'antenne, j'allume le public. Ils m'ont fermé la scène, j'ouvre le cabaret magique. Tu peux fermer la télé, mais pas les refrains. Quand Patrick revient, tout le monde s'en souvient. Avant c'était les rires, les plumes et les lumières. Des millions de regards accrochés à la fête entière. On bossait pour le peuple, pas pour les discours. Et le samedi soir, c'était le grand amour. Puis un jour, dans les bureaux, tout a changé de ton. On m'a rangé dans une case, puis jeté dans un carton. Trop libre, trop vivant, pas assez formaté. Alors on a décidé
de m'effacer.
La vengeance. Il y a trop d'hommes blancs de plus de 50 ans. Phrase glaciale lancée comme un règlement. Moi j'étais dans le lot parfait pour dégager un profil à gommer, un passé à virer. Mais moi j'étais sur scène, pas dans un tableau. Je faisais rire les gens, pas des idéaux. Et quand on trie les hommes comme des fichiers Excel, c'est plus de la culture, c'est du logiciel. La vengeance,
la vengeance.
Sur le front de l'Eurovision, Monroe est la candidate française sélectionnée pour le concours 2026. Avant l'épreuve, elle fait une tournée des chants sacrés dans les cathédrales de France. Elle déclare « Je désire transmettre l'amour de Dieu au plus grand nombre. Je crois que la musique peut vraiment créer un lien entre le ciel et la terre. Cela ne passe pas par le mental, ça touche directement le cœur. » En effet, la musique ne peut pas exister en enfer. Les descriptions des mystiques et des saints en attestent, car l'enfer, c'est le chaos, et la musique n'existe pas sans ordre. Ainsi, il existe bien des démons musiciens, mais ils ne peuvent exercer que sur Terre. La chanteuse est pilotée par Alexandra Redamiel, la chef de délégation française depuis 2020. Elle est aussi directrice des divertissements et jeux de France Télévisions, ce qui n'est guère encourageant sur les chances de succès quand on a suivi les révélations sur le fonctionnement de ces structures lors de la commission Allonge à l'Assemblée nationale. Elle signale que les chansons du top 50 des bookmakers sont interprétées dans les langues nationales des pays qu'elles représentent. Ça veut dire que c'est avec nos racines que l'on se bat, c'est avec nos racines qu'on va entrer dans cette compétition. Je crois que pour le monde, ça veut dire beaucoup de choses aussi. Un grand événement international ne peut exister sans polémique. Indirectement, elle permet de médiatiser un concurrent perdu parmi les autres. Alexandra Capitanescu, la chanteuse roumaine, a déjà réussi cette épreuve. Sa chanson « Choke me », littéralement « étrangle-moi », est accusée de banaliser la strangulation érotique avec des paroles explicites. « Je n'ai besoin que de ton amour, je veux que tu m'étrangles, tu es né pour contrôler, je veux que tu m'étrangles, aime-moi, fais exploser mes poumons ». La chanteuse a donné son interprétation des paroles. C'est une métaphore de la pression que nous nous mettons parfois. Il n'a jamais été question de symboliser quelque chose de sexuel. Rien de sulfureux donc, on avait mal compris. Le dire en faisant croire qu'on ne le nie pas, c'est du grand art. L'Eurovision s'ouvre maintenant sur l'Asie. Le premier concours asiatique aura lieu en Thaïlande en novembre. 10 pays ont confirmé leur participation. Le public est estimé à 600 millions de téléspectateurs, motivant cette ouverture sur l'Asie. Il faut élargir la clientèle. La compétition musicale vise à élargir une influence musicale occidentale sur les populations asiatiques. Je vous propose une pause musicale avec une chanson sur un candidat à la prochaine présidentielle, la calamité Édouard Philippe.
Promotion d'Édouard Philippe, c'est une enculerie sans nom, au sens littéral, car le type, comme nom, il a un prénom. Élu aux machines à voter, malgré ça, élu de justesse, au havre de paix bien crotté, il a dû bien serrer les fesses. C'est Édouard Philippe, Macron bis, un prototype. Du morpion au polype, cet éborgneur de gilet jaune, ce taxateur de carburant. C'est pas lui qui changera la donne, il veut toujours plus de migrants. Il a mis la taxe carbone, mais se déplace en hélico. On va s'en prendre plein la bonbonne, plus que Gisèle Pélicot. C'est Édouard Philippe. Il a bien ri pour Notre-Dame, fini les vieux au Rivotril, confinement pour l'équidame, et il se présente tranquille. En vrai, tout le monde le déteste, et même ses sourcils l'ont quitté. Après le choléra.
Enjeu actuel, dans les enjeux actuels, le compositeur Alexandre Desplat est nommé pour la 12e fois aux Oscars pour la musique du film Frankenstein de Guillermo del Toro. La musique de film reste un des rares répertoires de musique authentique. Ses compositeurs sont les héritiers de Lully, Mozart, Verdi, ceux de l'opéra, même si ce n'est plus de la musique vivante. Avec les compositions de 5 films par an, soit un tous les 2 mois et demi, la production de Desplat est considérable. Il le dit 18 heures par jour, il travaille 18 heures par jour. Le plus souvent, je vis comme un samouraï enfermé entre sport, thé et travail. Compositeur professionnel, il est très clair sur les enjeux de l'intelligence artificielle, donnant un aperçu d'un professionnel sur le problème. À la question de la crainte de l'intelligence, que l'intelligence artificielle ne lui vole son métier dans 10, 15, 20 ans, il répond « Dans un an, vous voulez dire, je pense que ça va aller beaucoup plus vite que 10, 20 ans. Je pense que ce sera bientôt fini, oui. Enfin, je le crains, j'ai la chance d'avoir composé beaucoup de musique depuis quand même 2 décennies. » Mais c'est, je pense, un peu la fin d'un monde. Parce qu'effectivement, on pourra copier n'importe quel compositeur. Enfin, copier, ça existe déjà. Mais on pourra remplacer pour faire à la manière de, facilement, comme on le fait déjà, que ce soit pour une voix, pour un instrument, pour une composition. L'Orchestre Philharmonique de Vienne a été accusé de trahison. Lors du concert du Nouvel An, une interprétation a déclenché la polémique. Ce n'est pas la qualité de l'interprétation qui est en cause, évidemment, mais les arrangements. La composition est de Florence Price, une compositrice afro-états-unienne. Pas simple à vérifier, ses œuvres sont peu connues et rares sont ceux qui peuvent en juger. La polémique a été ouverte par la hautboïste principale de l'orchestre de Baltimore. Elle a déjà un riche palmarès judiciaire dans les procédures pour harcèlement et discrimination. Son attaque contre le Philharmonique de Vienne est une opération réussie de cancel culture, la culture de l'effacement, puisqu'elle s'en prend à un orchestre européen emblématique. La revue Diapason fait parler Vincent Dumès de sa fascination pour le faux bourdon. Il en donne sa définition. Au départ, c'est un procédé d'improvisation polyphonique sur une ligne de plein chant. Dans le cadre de la contre-réforme, l'Église catholique l'autorise expressément dans la liturgie. Dumestre a réalisé quelques enregistrements remarquables de chansons traditionnelles avec le poème harmonique, les albums « Plaisir d'amour » et « Aux marches du palais ». Je vous les recommande. Ce n'est pas commun d'exhumer deux vieilles chansons de Louis XV au Premier Empire. Deux chanteurs lyriques, Marc Moyon et Pascal Chancès, ont fait un concert d'air sérieux et à boire ancien. C'était le chant, le temps où la chanson vivante accompagnait la vie quotidienne. France Info fait la promotion de la musique profondément enracinée, enfin celle de la Guadeloupe. Le chanteur Dominique Coco, en concert à la Martinique, 35 ans de vibrations et d'engagement. Une musique qui est un espace d'expression où se croisent mémoire, identité et engagement. 20 minutes nous l'apprend. J'ai commencé à la gare, je finirai peut-être au Stade de France. Azid Hamidi est pianiste autodidacte de Grenoble. Il a appris le piano tout seul avec des applis. Pour lui, c'est possible. Il y a ceux qui doivent apprendre le solfège, prendre des cours et passer des épreuves pendant des années. Et celui qui fait tout en un an dans une gare, c'est magnifique, le piano-gare. Je vous propose une pause musicale avec une chanson dissidente en lien avec l'actualité. Vous ne l'entendrez pas sur les radios périphériques. C'est le rock musette patriotique. Tout blanc, tout moche, suivant la formule de Mélenchon.
Voilà. chasser nos villages sourds. On garde la mémoire et l'honneur du labour. Périphérie fière que l'on voudrait griser. Nous ne mendions rien à l'élite blasée. Pour le rêve de soi, on s'esquinte de la santé. Pendant qu'il nous traite de pauvres ringardisés. Sur les ronds-points d'hiver, sous le vent qui déchire, on refuse d'abdiquer, on refuse de subir.
Je danse, je skie, je vis ma meilleure vie. À l'Alpe d'Huez, la planète électro s'éclate à Tomorrowland Winter. Le titre résume la mission de l'industrie musicale. Du pain, des jeux, rien n'a changé, sauf l'augmentation de puissance de la technologie. Elle permet d'installer les outils dans des lieux auparavant préservés. Seuls les écolo-bobos protestent puisqu'ils sont dérangés dans leurs loisirs. La population écrasée d'impôts n'a que la préoccupation de survivre. Ainsi, Reporter, le média écologiste, rapporte que plusieurs associations ont porté plainte contre ce festival. Les écolos s'opposent aux bobos. Ils ne critiquent pas le principe du festival en montagne, ils veulent juste le respect des règles des marchés publics et l'insertion d'une clause environnementale. Accessoirement, Reporter dénonce l'extrême droite sur son site, c'est important. France 3 Région explique que le violoniste René Capuçon reprend des œuvres composées dans un camp de concentration. Il donne deux concerts gratuits alternés de tables rondes sur les liens entre l'art et la démocratie ou encore l'engagement spirituel et la mémoire. Attali était invité. On est dans une salle ensemble, on réfléchit ensemble, on débat ensemble et finalement, toute cette parole, elle forme une musique qui est celle de la démocratie et du vivre ensemble. Chacun peut réagir, chacun peut résister, chacun à sa manière. Ainsi, dans les moments critiques, la musique sert à rappeler les repères imposés à nos populations. Il y a les repères importants et les autres, ceux qui sont progressivement effacés et ceux qui sont systématiquement répétés. Je vous laisse apprécier l'efficacité du traitement. D'année en année, on peut observer les progrès de la démocratie. Radio France se félicite de la bonne santé de l'industrie musicale. Partout dans le monde, le marché de la musique est en croissance pour la 11e année consécutive, en hausse de plus de 6,4% par rapport à 2024. La Chine passe à la 4e place devant l'Allemagne et la France, elle à la 6e place. Spotify et Deezer représentent 70% des revenus et la moitié des recettes sont liées au programme aux abonnements avec 837 millions d'abonnés. Les progressions sont portées par le streaming, l'écoute en ligne, le streaming payant, mais le marché du vinyle progresse aussi avec 14% de hausse. Le support physique est un objet de collection. En France, Gims, Yule, Theodora et Elena ont dominé la consommation musicale en 2025. Vous pouvez constater que d'un point de vue strictement musical, le grand remplacement est acté. Au niveau mondial, l'américaine Taylor Swift, le groupe de K-pop Stray Kids et la superstar canadienne du rap Drake sont en tête des ventes. Ces chiffres ne doivent pas faire oublier que la musique est un art immatériel. L'industrie musicale vend des produits qui peuvent être agréables à écouter, mais qui réduisent, voire remplacent la pratique. Qui chante ou joue encore d'un instrument, rien ne vaudra jamais la musique vivante. Les récepteurs radio dans les voitures seraient condamnés par les constructeurs automobiles qui veulent les remplacer par d'autres appareils. Il paraît que la radio numérique terrestre remplace progressivement la bande FM. Auditeur de Radio Courtoisie, vous êtes concerné. De fait, Radio France fait savoir que France Musique bascule vers le numérique et va quitter la FM. 30% du territoire ne sera plus couvert. L'objectif est de faire des économies via la location des émetteurs. La technique évolue, les communautés doivent s'adapter car l'homme a des impératifs relationnels qui n'ont jamais changé depuis l'origine de l'humanité. La voix, l'oreille sont les mêmes, l'enregistrement, l'amplification ont former les rapports au son et donc à la musique. Pour conclure ce tour d'horizon, je vous propose la chanson dissidente En même temps.
J'arrive en Uber, je repars en Falcon. Je traverse la rue, je te trouve un patron. Tu cherches du sens, je te vends du pognon. T'as pas de retraite, vends ta maison. J'ai des amis qui s'appellent McKinsey. Ils coûtent un bras, mais ils comptent pour moi. Ils m'ont dit Manu pour la vérité. Fais un powerpoint plutôt qu'un doigt.
À l'hôpital, y'a plus de lit, y'a plus de drap. Mais j'ai applaudi, alors ne te plains pas. T'as pas de masque, c'est pas grave, ça sert à rien. Ah si, c'est grave, maison de crétin.
Une république exemplaire.
Gilet jaune sur un rond-point, boum, une grenade, il voit plus rien. C'est pas de la violence, c'est du maintien. Benalla, connais pas?
Ah si,
c'est un copain. Les agriculteurs bloquent l'autoroute, j'envoie la CRS pour qu'il la boucle. Puis je vais au salon, je caresse une chèvre, je bois un coup et je leur vends du rêve. Je te promets l'écologie, la main sur le cœur, en signant des deals avec des pollueurs. En même temps, c'est ma religion. Je suis de gauche, de droite, et surtout le patron.
Une république exemplaire, en même temps, en même temps. Ma pique, ça aille au budget, les hôpitaux par terre. Sans neuf au ministère, en même temps, Bayrou rousseur du cimetière. Je dis tout et son contraire, en même temps. Marche ou crève pour Jupiter.
J'envoie pas de soldats, ah si pourquoi pas. Hier je disais jamais, aujourd'hui bah on verra. Char pour l'Ukraine, non, à six jours à la guerre. Je dis tout et son contraire, normal, je suis Jupiter. C'est Lance qui m'appelle, je promets mer et montagne. 26 pays, des garanties, on trinque au champagne. Mais quand faut casquer, je suis en consultation. En même temps, la paix, la guerre et ma réélection. Je traverse la muraille en courant comme Milou. Les gardes du corps hurlent, on a perdu le président. Le protocole chinois, rien à battre, je suis un fou. J'envoie même des hélicoptères sur la tronche des paysans.
Une république exemplaire, en même temps, en même temps. Ma pique, ça aille au budget, les hôpitaux par terre. Sans neuf au ministère, en même temps. Vrai rousseur du cimetière. Je dis tout et son contraire, en même temps. Marche ou crève pour Jupiter. Traverse la rue.
Bonsoir Florent Dupriez, vous êtes l'auteur du livre Mélodonia, les mélodies oubliées, édité avec la Confédération française des batteries fanfares. Vous publiez ce petit livre très original et agréablement illustré. J'avais vu la présentation dans le dernier numéro de la Confédération, du magazine de la Confédération des batteries fanfares. Vous êtes musicien, chef de la batterie fanfare de Sénart et vous donnez des cours de musique. Quel est votre parcours ?
Mon parcours dans la musique, moi je suis né dans la batterie fanfare, puisque c'est mon père qui l'a créé avant même que je naisse. Donc voilà, je suis comme Obélix, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Et puis après, j'ai appris le clairon au sein de cette association. Et comme j'aimais beaucoup ça, ensuite j'ai été au conservatoire, donc j'ai fait 10 ans au conservatoire à Nandy et Comblaville.
Au clairon ? Ils font des cours de clairon ?
À la trompette. Alors, malheureusement, il n'y a pas de cours, il n'y a pas de classe d'instruments d'ordonnance dans les conservatoires, ouais. Mon grand regret. Mais le clairon amène très vite à la trompette si bémol, puisqu'il s'agit de la même technique, mais il y a plus de notes à jouer. Et de ce fait, j'ai pu intégrer le conservatoire. Et ensuite, à l'issue du conservatoire... Au conservatoire, on apprend. Et puis, on fait aussi beaucoup de pratiques collectives. On fait du big band, on fait des comédies musicales, on fait du classique, on fait du jazz. On fait beaucoup de choses. Et c'est ce qui m'a donné le goût de l'orchestre, qui a fait que j'ai continué, à la suite de mon père, de maintenir l'orchestre de batterie fanfare.
C'est vous qui dirigez maintenant l'orchestre ?
C'est moi qui dirige, oui. Alors, des fois, je laisse la main à certains jeunes qui aiment faire ça, donc... C'est moi qui dirige, mais avec beaucoup d'ouverture.
Et le programme de batterie fanfare, en quoi consiste quelles sont les pièces, quelle est votre programmation, quelles sont les activités de cet orchestre ?
L'orchestre que je dirige, alors il y a une partie fanfare avec les trompettes si bémol, et puis des basses, et puis des saxos, parce que ça marche très bien. Et puis pour ce qui est du programme de batterie fanfare pure, nous, on aime bien faire des choses assez contemporaines, pas forcément très récentes, Moi, j'ai été beaucoup marqué dans les années 2000 par les CD de la batterie fanfare de la Police Nationale et des compositions donc contemporaines qui ont été faites par Guy Coutançon, qui ont été faites par Alain Lantin, qui ont été faites par Patrick Poutoir, qui ont été faites par Jacques Pourny. Des compositeurs qui, en fait, ont rapproché la batterie fanfare de ce qu'on pourrait entendre dans une harmonie, pour montrer aux personnes que, ben oui, une batterie fanfare, c'est pas uniquement des cérémonies au monument aux morts, c'est aussi un programme éclectique, c'est aussi un programme populaire qui permet de jouer des pièces qui sont parfois des adaptations de morceaux de variété et parfois des compositions pures qui permettent de mettre en avant la richesse de ces instruments, le fait qu'il y ait ces contraintes. Je ne sais plus quel auteur avait écrit un livre qui s'appelait « Éloge de la contrainte », et bien c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'avec les contraintes techniques de ces instruments, on arrive à faire des compositions qui sonnent différemment des harmonies, et en fait, avec ce son différent, on peut faire des programmes intéressants, historiques, parce qu'on peut aller chercher aussi les anciens morceaux, dans les années 50-60, hein, par Jacques Devogel et Robert Gout, et puis des choses très récentes aujourd'hui, pour montrer l'évolution du répertoire au public.
On va écouter un morceau... vous avez sélectionné le prélude du Te Deum de Charpentier.
De Charpentier, oui. Alors là, on revient tout à l'origine des instruments d'ordonnance, puisque la batterie fanfare, la composition instrumentale, se porte avec des instruments d'ordonnance, le clairon, la trompette de cavalerie, le cor, mi bémol. Mais à l'origine, les trompettes naturelles, qui sont naturelles... Les trompettes d'ordonnance sont des trompettes naturelles, mais elles sont là pour donner des ordres sur les champs de bataille. La trompette naturelle, c'est à partir de la période baroque, on les voit arriver, donc avec le règne de François Ier. La première fois qu'on a des trompettes dans un opéra, c'est l'Orfeo de Monteverdi. Et donc, cette façon de jouer de la trompette ensuite se retrouve dans les chants liturgiques.
Alors, Florent, votre livre raconte les aventures du jeune Lonnie, chef d'un orchestre de cuivre. Il présente un conflit entre la musique d'harmonie et la musique symphonique, entre les cuivres et les cordes. D'où vient cette opposition musicale ?
Oui, alors c'est une analogie, hein. c'est une parabole. J'ai rien contre les cordes.
Bien sûr.
Voilà, j'aime beaucoup le violon. J'avais une amie au conservatoire qui faisait du violoncelle et je trouvais ça incroyable. J'adore les instruments à cordes, il n'y a vraiment pas de problème ça. L'histoire que je raconte, finalement, je symbolise l'élitisme en fait, par les instruments à cordes, voilà, dans ma tête, dans mon imaginaire. Les cordes étaient un peu associées à quelque chose d'élitiste. Pourquoi ? Peut-être parce que c'est très compliqué d'apprendre le violon et que c'est réservé, c'est coûteux de l'apprendre. Donc il y a quelque chose de forme de l'élitisme que je voulais symboliser dans ce livre. Là où mon personnage était un petit homme du peuple qui avait appris son instrument de son côté, à qui on déniait le droit d'être à de hautes sphères parce que ce n'était pas assez noble de jouer autre chose que des cordes. C'est ça que j'ai voulu illustrer, en fait. Je n'ai rien contre les cordes.
On écoute la toccata tirée de...
Oui, la toccata, donc c'est ce que j'évoquais. L'Orfeo de Monteverdi s'ouvre avec la toccata.
On écoute un extrait de la toccata. Florent Dupriez, dans vos cours et votre fanfare, vous formez des jeunes. Ce n'est pas trop compliqué pour eux d'apprendre la musique plutôt que de rester sur leur écran et leur téléphone?
Oui, alors, bon, la majorité des jeunes qu'on forme ont quand même moins... Ils ne sont pas tous au collège. Et c'est rare quand même les enfants qui ont des téléphones avant d'arriver au collège. Donc, et puis, c'est des enfants déjà intéressés par la musique. Je ne sais pas si ça fait un biais. On ne ressent pas trop ça, hein, la présence du téléphone. Moi, je ne le sens pas. Peut-être plus globalement, ce que je discute avec les autres bénévoles qui dirigent des associations comme moi, et en particulier dans le milieu culturel, c'est que... quand j'ai été plus jeune dans cette association, je voyais les musiciens vraiment engagés dans l'association, là où aujourd'hui, souvent, c'est pas une majorité, mais on arrive de croiser des gens qui cherchent une activité pour les enfants, pour les occuper. Parfois même, le critère de choix, c'est quand est-ce qu'a lieu l'activité, ça m'arrange parce que je peux aller faire les courses en attendant. Et du coup, il manque un peu parfois cette notion d'engagement. Nous, c'est ça qu'on aime mettre en avant quand on s'inscrit chez nous, les cours sont gratuits, puisque c'est beaucoup des bénévoles qui ont beaucoup d'expérience, comme moi ou comme les autres professeurs. La contrepartie, c'est de s'engager, en fait, à venir faire les sorties avec nous, les cérémonies, les carnavals, les défilés, les concerts, de sorte à ce qu'on perpétue la pratique instrumentale en échange des cours gratuits.
Ah oui, c'est un bon deal, comme on dit.
Voilà, c'est un peu...
Formé pour... jouer de la musique,
c'est ça. Hein, ça peut... Et puis de ce fait,
rendre service aux autres par cette musique, parce que vous intervenez dans les cérémonies, un investissement collectif.
Exactement. En fait, c'est ça. C'est le temps que prennent les musiciens. C'est comme ça en fait qu'ils payent leurs cours entre guillemets. Et ça permet de tout faire vivre en faisant des cérémonies. On arrive à récupérer de l'argent pour pouvoir faire fonctionner l'association et donc offrir des cours gratuits. Et en fait, c'est un cercle vertueux de cette façon.
C'est ça.
Ensuite, évidemment, quand les personnes viennent et puis testent l'activité parce qu'ils veulent juste s'occuper, généralement, ils n'y restent pas et on leur en veut pas. On est content de les avoir fait découvrir ce monde qu'est la musique. Mais la majorité, et je les remercie, ils restent bénévoles dans l'orchestre et puis continuent à jouer le jeu. Quoi.
On écoute, vous avez sélectionné les Marches de l'air numéro 2.
Oui, les Marches de l'air qui sont une composition de Robert Gut qui a démocratisé la pratique du tambour, hein, la tradition du tambour français qui remonte alors, avant Napoléon, mais c'est les armées napoléoniennes hein, qui les ont mis en avant sur les champs de bataille des guerres napoléoniennes. C'était un outil de galvanisation des troupes et puis du cérémonial important. Donc Robert Gut a modernisé ça pour pouvoir... c'est un grand pédagogue, hein, Robert Gut, qui a permis... d'apprendre ça et de perpétuer la tradition du tambour français.
Loni est le héros de votre ouvrage qui est destiné aux très jeunes musiciens. Votre démarche et votre histoire est originale puisqu'elle se déroule dans le royaume du roi Mélodoric, un vrai royaume de la musique où chaque citoyen possède un instrument de musique. C'est extraordinaire ça. Ce serait le pays idéal, une sorte de paradis. Pour vous, la musique devrait être enseignée à l'école en même temps que la lecture et l'écriture?
Oui, évidemment, je peux répondre que oui à ça. Bon, je tire mon chapeau déjà aux enseignants qui ont beaucoup à faire avec les programmes et les moyens qui diminuent. Mais il est vrai, quand j'étais enfant, il y avait un musicien hein, qu'on appelait un dumis qui venait à l'école. Bon, pour moi, c'était le meilleur moment à l'école, évidemment, mais bon, c'est ma vision des choses. Non, ce que je dis souvent, c'est que c'est très bien que les enfants en école primaire, ils apprennent à nager, par exemple. C'est quelque chose qui a été imposé, et c'est très bien, ça évite des noyades. Mais je me demande pourquoi on n'a pas eu le même acte politique pour apprendre à lire des partitions, par exemple.
Mais ça se faisait au 19e, c'était...
Il faut remonter très loin voir ça. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'y pencher aujourd'hui. L'éducation musicale dans l'éducation nationale aujourd'hui, vous faites une heure de cours au collège. Je ne sais pas qui se souvient de ça. Pour ma génération, ceux qui se souviennent d'avoir fait de la flûte à bec se souviennent que c'était plus un élément de moquerie ou de rigolade plus que d'apprentissage de la pratique instrumentale. Donc, je connais pas les chiffres de combien de personnes ont déjà pratiqué ou pratiquent un instrument, mais ça m'a l'air dérisoire par rapport à ce que ça peut apporter. Quoi.
Je crois qu'on est entre 1 et 3% de population française qui lit la musique, qui sait lire le...
Voilà. Bon, je sais pas, j'ai pas ces chiffres-là, mais toujours est-il que, effectivement, et c'est aussi pour ça qu'on fait des démonstrations dans les écoles, nous, avec l'association. On vient montrer les instruments aux enfants. Ils adorent ça. En plus, ils ont envie d'essayer tout de suite.
Ah oui.
C'est tout de suite intéressant d'avoir un instrument dans les mains. On a envie de voir
surtout
comment ça marche.
Vous faites ça avec des cuivres ?
Oui, on le fait avec des cuivres. Oui. Moi, je ramène des clairons, des trompettes. Et puis, Alors oui, ça fait un peu de son. mais bon.
Ça parle, le cuivre.
Ouais. Ouais, et puis, ça donne envie. Quoi. Donc oui, un peu plus de musique à l'école, s'il vous plaît. Ça serait pas mal.
on écoute... CFBF numéro 1.
Oui, CFBF numéro 1. Donc on est encore avec Monsieur Robert Gout, mais cette fois-ci avec Monsieur Jacques de Vogel, qui ont composé ce morceau tel un hymne au moment de la création de la Confédération française des batteries fanfares, donc au moment où les orchestres de batteries fanfares se sont fédérés. Il a fallu un hymne pour les rassembler.
La Confédération française des batteries fanfares vous a soutenu pour la publication de votre ouvrage et en fait la promotion. C'est comme ça que je l'ai découvert.
Oui.
Et donc, quel est le rôle de cette organisation ?
La CFBF, elle a un rôle important hein, pour des orchestres comme nous, qui sommes des orchestres un peu en voie de disparition. C'est rare, hein, les orchestres qui jouent des instruments naturels comme ça. Donc, elle a un rôle de soutien déjà, alors de support technique. Parce qu'il y a des professionnels de la musique dans la CFBF qui apportent leur aide aux associations, aux sociétés de musique, en organisant des stages, des journées de formation, des choses. Ça, c'est très important pour maintenir le niveau, pour maintenir la formation des cadres, notamment. Ça nous aide beaucoup quand on a besoin d'un soutien technique. C'est aussi une organisation qui travaille sur la diffusion de ces informations, de ces sujets-là. C'est pour ça que, et je les remercie encore aujourd'hui, qu'ils ont participé à la promotion et puis au fait que ce livre puisse être sorti et puis communiqué auprès de leur réseau. Et c'est une structure qui accompagne aussi, qui partage ses moyens avec une partothèque, parce que c'est des partitions aussi qui se perdent, puisque de moins en moins de musiciens les jouent. Et donc il y a un centre de ressources pour les partitions, il y a un centre de ressources pour la formation et il y a un centre de ressources, j'ai presque envie de dire humain, avec des personnes qui sont des professionnels de la musique et qui sont là pour permettent aux sociétés comme nous de continuer à faire ça dans les meilleures conditions.
On écoute la parade des automates.
Oui, la parade des automates. Alors, c'est l'un de mes morceaux préférés parce que, donc, composé par Guy Coutançon, qui, il le raconte mieux que moi, mais qui, en composant ce morceau, s'est rendu compte, sa fille lui a fait se rendre compte qu'il retombait sur les accords de la chanson « Je n'aurai pas le temps » de Michel Fugain. Et donc, il a contacté Michel Fugain pour lui demander l'autorisation. Et Michel Fugain lui a écrit une lettre en l'autorisant, même en l'encourageant, à publier sa version. On arrive dans une composition un peu plus moderne, c'est des années 90-2000, où en fait on voit que malgré tout, avec un orchestre de batterie fanfare sur lequel on pourrait s'imaginer que c'est de la musique que militaire, en fait on arrive à avoir une ouverture du programme. Et c'est aussi un morceau avec plein de petites percussions qui permet à nous, des orchestres comme les nôtres, d'être très tôt mettre les élèves dans l'orchestre pour des choses qui sont importantes, parce que c'est très réglé, comme du papier à musique, mais qui sont assez simples à produire. Et de ce fait, on permet à avoir un orchestre qui intègre autant les anciens musiciens que les nouveaux dans un morceau qui est très fin.
La lecture de votre ouvrage est rendue attrayante par les illustrations originales. Cette collaboration avec une dessinatrice a forcément compliqué l'édition, mais a créé une ambiance festive. C'est celle de vos musiques aussi ?
Oui, c'est celle de la musique en général. Alors, la musique en général n'est pas que festive, c'est vrai, mais c'est vrai que souvent, quand on fait des représentations avec mon orchestre, on le fait à l'occasion de carnaval, de défilés, de fêtes, donc on voit la ferveur populaire derrière qui nous suit, qui est heureuse. On voit les fêtes de Bayonne, par exemple. C'est très festif. Donc c'est vrai que pour moi, tout ça est formidablement joyeux, la musique, c'est beaucoup de joie. Ça accompagne aussi les moments tristes, mais vous savez, c'est des moments où la musique vous accompagne. Donc en fait, elle vous tient la main et quelque chose de l'ordre de la bienveillance de la musique, même quand elle est triste. Et ce que j'ai aimé dans le travail de Léana, qui a illustré ça de façon incroyable, c'est que c'est très lumineux, très coloré ce qu'elle a fait. Et en fait, c'est ça, la musique, c'est plein de couleurs. Vous savez, il y a des gens, ils ont des particularités qu'on appelle la synesthésie, c'est-à-dire qu'ils entendent les couleurs. Voilà, c'est un petit peu ça que j'avais en tête, c'est-à-dire qu'on parle de couleurs musicales, bah pour moi, c'est exactement ça, quoi.
Donc, alors, avant de nous quitter, comment se procurer votre livre ?
Alors, on le vend directement, puisque c'est de l'auto-édition, sur notre page Hello Asso. Donc, sur Hello Asso, vous cherchez Mélodonia, les mélodies oubliées.
Mélodonia sur Hello Asso. Donc, ça, c'est facile.
C'est facile, c'est en ligne, voilà, livraison gratuite, on vous envoie tout ça. Et puis sinon, vous pouvez m'envoyer un petit mail en me demandant, surtout si vous en voulez beaucoup et que comme ça, on économise un peu les frais d'envoi, à contact@bfscenar.net, voilà, qui est notre adresse mail pour nous contacter directement.
contact@bfscenar.net.
C'est ça, en minuscule, scénar avec un T, point net. Et là, je réponds tout le temps à tout le monde, à toutes les demandes.
Merci, Florent Dupriez. Et... avant de nous quitter, l'adieu en fanfare.
Évidemment, on ne pouvait pas se dire au revoir autrement qu'en fanfare, donc vous allez reconnaître, hein, je pense, cette mélodie jouée par une batterie fanfare. Merci beaucoup.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Bonjour Albert Villemetz. Je vous remercie d'avoir répondu à mon invitation. Vous êtes le fils de Claude. Vous portez le même nom que votre grand-père qui était un ami de Sacha Guitry dont vous présidez l'association des Amis. Votre grand-père était un célèbre chansonnier, plus de 3000 chansons, auteur de 90 revues pour le théâtre et de plus d'une centaine d'opérettes. Vous pouvez nous le présenter ?
Avec grand plaisir. Albert Villemetz, quand il avait 13 ans, est allé assister à Carmen, à l'Opéra Comique. Son père a eu la très bonne idée de l'y emmener. Immédiatement, il a dit « c'est ça ce que je veux faire ». Alors son père lui a dit « tu dois gagner ta vie avant », si bien qu'Albert Villemetz a commencé à rentrer dans l'administration. Il arrive au concours, et puis au concours, il arrive en retard d'une heure, et son examinateur lui dit « Vous vous croyez déjà dans l'administration ?» Époque bénie où l'humour courait dans les rues, loge d'or des âmes pures. Il va tellement réussir dans l'administration, parce que c'est un homme qui écrit très bien, qu'il se retrouve secrétaire de Clémenceau, tout en écrivant des revues, un peu comme messieurs les ronds de cuir que vous connaissez, où on fait les deux choses à la fois. Et puis, Quinson lui demande après de faire une revue avec Sacha Guitry, on va y revenir. Mais dès la fin de la Première Guerre mondiale, c'est la générale de Fifi qui va être le grand succès d'Albert Wilmette, suivi par d'autres succès extraordinaires, Dédé, La Haute à Bouche, et puis toutes les chansons que vous connaissez, Mon Homme, Dans la vie vaut pas sans faire, Valentine, Les Palétuviers, et beaucoup de chansons de Maurice Chevalier. Après, il va prendre la direction du Théâtre des Bouffes Parisiens, qu'il va avoir pendant 30 ans, et pendant l'occupation, Albert Wilmette va héberger et va sauver Jean Cocteau qui avait été éjecté d'un autre théâtre. Et pendant l'occupation, les Allemands raflent dès juin 40 les théâtres des personnes qui ne sont pas ariennes. Par exemple, le théâtre que nous avons connu sous le nom d'Espace Cardin, mais que les plus âgés d'entre nous, dont moi, avons connu sous le nom de Théâtre des Ambassadeurs, a été raflé dès juin 40 par des escrocs. Le propriétaire s'appelait Henri Bernstein, il était juif, il ne pouvait pas rester, etc. Donc Albert Wilmette a récupéré en sous-main, pour les protéger, les théâtres de tous ses amis juifs qui ne pouvaient pas rester. Il a récupéré l'Athénée, le Théâtre Pigalle et beaucoup d'autres. Et comme il était extrêmement anti-allemand, à la Libération, il est nommé président de la SACEM. C'était une période compliquée, l'occupation, parce que mon père, Claude Wilmette, à 20 ans, était à Londres avec le général de Gaulle, alors que deux autres frères de mon père étaient prisonniers en Allemagne et que le dernier était parti en Espagne de façon totalement de son côté. La SACEM, Albert Wilmette, qui avait fait des études de droit avant de rentrer au ministère, a réussi cette chose absolument inouïe d'organiser tout d'une façon prodigieuse, si bien qu'il est nommé président de la CISAC, qui est la SACEM européenne. Et Albert Wilmette, je l'ai toujours vu, après avoir écrit ces chansons si légères, qui sont toujours joyeuses, qui chantent la vie en réalité, mais dites-vous bien que ce n'est quelqu'un que je n'ai jamais vu qu'en costume trois pièces gris, avec le canapé de commandeur Légion d'honneur, n'ayant jamais appris à conduire, donc ayant toujours un chauffeur, ce qui lui permettait de pouvoir partir très tard du théâtre, partir très tôt le matin et continuer à travailler dans la voiture. Et c'était l'homme le plus sérieux du monde et c'était son grand ami, celui de son enfance, qui était à Sainte-Croix de Neuilly avec lui en sixième, puisque Sacha Guitry a toujours été en sixième. Et c'est là où il va pouvoir, au moment d'Hiver de printemps, justement, se rencontrer à nouveau et plus jamais se quitter, car c'était vraiment, comme écrit Sacha Guitry à de nombreuses reprises, Albert Wilmette, mon meilleur ami. Et souvent, dans les dédicaces, il y a écrit Albert Wilmette à mon meilleur ami. Il y a des fois où on aime bien se répéter.
Et nous écoutons une chanson que vous avez sélectionnée, Je ne suis pas ce que l'on pense. Ça correspond exactement à la description que vous nous avez faite du personnage.
En réalité, Yvonne Printemps, dont nous allons parler, comme toutes les grandes vedettes, comme Sacha Guitry, y a une image et la légende est plus importante que la vérité. C'est une phrase de Sarah Bernhardt. Et c'est pour cette raison que nous avons voulu à l'association des amis de Sacha Guitry, publier des livres qui sont basés sur les archives. Là, nous avons réactualisé pour la troisième édition Sacha Guitry, Yvonne Printemps, basée sur des archives, je vous en reparlerai, qui montrent la réalité de leur couple, parce que le livre qui avait été publié autrefois de leur vivant avait été censuré. On va en reparler. Mais comme Yvonne Printemps était souvent vue uniquement comme une femme qui chante de façon merveilleuse, qui a beaucoup de charme, alors que c'est une femme remarquablement intelligente, qui a beaucoup de cœur, beaucoup de caractère, qui a toujours fait dans la vie ce qu'elle voulait. Elle n'a jamais dit une seule fois du mal de Sacha Guitry, alors que Pierre Freinet, que j'ai bien connu aussi, était insulté de façon extrêmement régulière et copieuse. Et en réalité, Albert Villemette, dans cette chanson que nous allons écouter, écrit pour Yvonne Printemps dans Trois valses qu'elle n'est pas ce que l'on croit, elle n'est pas ce que l'on pense, elle n'est pas ce que l'on dit, et que tout ça, c'est un peu une apparence nécessaire des grandes vedettes.
Vous avez l'air étonné.
Non, je suis heureux. Je vous vois tout à coup si différente. Au fond, vous êtes très gentille.
Chut, faut pas le dire.
Pourquoi ?
Parce qu'on vous pardonne quelquefois d'avoir réussi, mais jamais d'avoir l'air heureux.
Vous donnez rudement bien le change.
Ah, ben, je suis comédienne. Que voulez-vous, c'est obligé. Par mon contrat, je dois changer mes habitudes. Car malgré soi, pour s'imposer, il faut savoir se composer une attitude. Je ne suis pas ce que l'on pense. Je ne suis pas ce que l'on dit. Au cinéma, pour qu'on vous lance, être soi-même, c'est interdit. Alors pour être dans l'ambiance, à chaque instant, je m'étudie. Moi, sérieuse, je dois jouer à la poseuse pour me poser. Mais je vous jure que ma nature a du mal à se maîtriser. Ce que l'on dit, quand je suis dans l'intimité, je reprends ma simplicité, j'en suis heureuse. Je vis pour moi, je m'appartiens, mais au studio je redeviens l'antiquineuse.
Alors, votre grand-père, avec ses apparences austères, finalement, il a fait fortune dans la musique. C'est quand même original, parce que on a souvent l'image du chansonnier qui festif et qui finit dans la misère parce que il n'a pas su gérer les finances et il préférait la fête.
Vous avez entièrement raison. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison qu'Albert Villemetz, président de la SACEM, a créé le Comité du Cœur, qui est un organisme pour aider ceux que le succès n'a pas suivi pendant toute leur vie. Et lorsqu'il a créé le Comité du Cœur, qui existe encore aujourd'hui, bien entendu, les auteurs donnent un petit pourcentage. Et nous avons publié dans la biographie Albert Villemetz la lettre qu'il avait envoyée à tout le monde. Et Maurice Chevalier, que j'ai eu la chance de bien connaître aussi, avait la réputation d'être un homme qui était assez radin. Eh bien, pensez, c'est l'inverse. Quand il a appris que le Comité du Cœur était créé, il a donné spontanément sa propriété de Cannes-la-Bocca. C'était un 25 décembre pour Noël, et vous avez même des films qui ont été faits où on voit Albert Villemetz et Maurice Chevalier donnant cette propriété. Sacha Guitry avait fait la même chose toute sa vie, avec plus de 100 galas de charité, allant jusqu'à envoyer pendant l'occupation des paquets à des prisonniers qui ne connaissaient pas. Nous avons publié dans un des livres de l'association des amis de Sacha Guitry les courriers qu'il recevait des stalags où il y avait écrit à Monsieur Sacha Guitry au bon soin de la notoriété, ce qui est comme public, c'est comme une chose absolument inouïe. Et il y a un mois où il a envoyé 5 fois plus que le salaire de sa secrétaire. Ça donne une idée. Et à un moment, pendant l'occupation, Sacha Guitry avait fait, comme plusieurs personnes d'ailleurs, mais pas si nombreux, un petit guichet pour les pauvres, pour qu'ils puissent prendre de l'argent. Et puis le maître d'hôtel s'est rendu compte que c'était toujours le même petit bout de papier qui était donné, donc c'était les mêmes qui tournaient. On a dû arrêter. Et les galas de bienfaisance de Sacha Guitry étaient inouïs, parce qu'ils étaient même faits avec des ventes aux enchères, où il mettait lui-même des objets à lui. Il surenchérissait dessus, il les payait. Et pour la SACD, qui avait besoin d'argent après-guerre aussi, il avait été demandé de faire une action de bienfaisance pour les biens de la SACD. À ce moment-là, ça devait se passer à la galerie Bernheim, la fameuse galerie de peinture, dont Gaston et Jos Bernheim étaient des grands amis de Sacha Guitry. Malheureusement, le coût d'assurance était tel qu'il a été décidé que les pièces qui étaient là resteraient, il n'y aura pas à les assurer chez Sacha Guitry. Ça rapportait une somme absolument hallucinante, nous sommes dans les années 50, un peu moins de 2 millions, et Sacha Guitry a arrondi la somme à 2 millions pour que ça aille aux œuvres de la SACD. Et on peut multiplier les exemples. J'ai appris par Alain Malraux dernièrement que Missy, qui était la fille du duc de Morny, était autrefois dans un petit hôtel très pauvre, ne pouvait plus payer l'hôtel, allait être à la rue. Et ce qui s'est passé, c'est que Sacha Guitry a payé les arriérés, a payé l'hôtel jusqu'à la mort de Missy, et après s'est occupé de ses funérailles. Personne n'en parle, Sacha n'en a jamais parlé. Quand vous faites du bien, vous n'en parlez pas d'habitude. Et également, pour ses cinq femmes, il leur a absolument tout donné. À Yvonne, il lui a donné ses bijoux, alors que la loi ne le permettait pas. Ce n'était pas très avancé à l'époque pour les femmes. Et vous avez l'arrêt Sacha Guitry de décembre 53, si j'ai bonne mémoire, qui donne aux femmes la possibilité de récupérer les bijoux. À sa première femme, il avait donné la propriété en Normandie, il avait donné à Yvonne, la seconde femme, ceci, la troisième, la quatrième et la cinquième a absolument tout eu de lui. C'était absolument inouï. Et finalement, il a eu cinq femmes et aucune de ces cinq femmes, jamais, n'a dit du mal de lui. Divorcer une fois, vous verrez si c'est facile. Et elles ont toutes écrit des choses sur lui, après sa mort, souvent, comme je viens de Cériville. Et c'est extrêmement émouvant et touchant de voir un homme que personne n'a jamais vu hausser la voix. Et Geneviève de Cériville, dans ses mémoires, raconte que lorsque le général Turner, qui était le chef administratif au début de l'occupation, est allé voir Sacha Guitry dans sa loge en lui disant, on peut pas refuser, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Et que Sacha a dit, pour moi non, mais si vous avez des prisonniers... ce serait pas... Ah ben oui, dans ce cas, je vous en donne... Je peux en avoir combien? 10. Et Sacha ne connaissait qu'une personne, justement le frère de mon père qui était prisonnier en Allemagne. Il a demandé à tout le monde, avez-vous un enfant prisonnier? Avez-vous un frère prisonnier? Alors les gens au départ ne répondaient pas. Ils ne savaient pas. Et il a fait libérer le fils de la concierge d'en face, par exemple. Et tout le monde après est venu lui dire, quand a été fait, est-ce que vous pouvez nous aider pour ça? Il n'y a que deux personnes qui lui ont dit, n'accepte pas ce que te dit le général Turner. Le général Turner, d'ailleurs, va être renvoyé par les chefs allemands, trouvant qu'il est beaucoup trop gentil, etc. Et il n'y a que deux personnes qui lui ont dit « n'accepte pas ». Sa femme, qui lui a dit, on est donc en 40, hein, juin 40, « n'accepte pas parce que, au moment de la victoire, ça va être reproché ». Et mon grand-père, Albert Wilmetz, dont c'était quand même le fils, lui a dit « je pense la même chose, si tu acceptes, ça sera reproché au moment de la victoire. » Et Sacha a répondu, je peux faire tellement de bien, et je m'en priverai. Si bien qu'il a fait constamment des demandes à tout le monde, il n'y a que la SS où il n'a pas pu avoir d'informations, parce qu'il considérait qu'il était juif, parce que pendant ce temps-là, les jours de la collaboration, dès juin 40, commence à dire qu'il est juif à cause du prénom Sacha. Alors que Sacha est le diminutif d'Alexandre, c'est une famille normande, mais Lucien Guitry était en tournée à Saint-Pétersbourg, il est né à Saint-Pétersbourg, Lucien Guitry était le plus grand acteur homme de son époque, l'équivalent de Sarah Bernhardt, et bien entendu ce qui s'est passé c'est que le parrain était le tsar Alexandre III, et d'où Alexandre, et le diminutif Sacha, la presse, que la beau épouvantable, la France au travail, le pilori, l'appelait Monsieur Moa. Alors je n'ose même pas vous dire l'article tellement c'est immonde, mais il a dû montrer qu'il l'était, qu'il n'était pas juif. Et il a fait une pièce en janvier 41 que l'association des amis de Sacha Guitry a publiée grâce à Christian Barle ayant droit, qui nous a permis de le faire aussi. Mon auguste grand-père, où il prend en janvier 41 la défense des juifs. En janvier 41, il n'y a pas grand monde qui l'ait fait à Paris. Ça lui a valu tellement d'ennuis de la part des Allemands qu'ils l'ont persécuté littéralement pendant toute l'occupation. ils ont interdit une autre opérette qui, avec Charles Trenet, ça c'est quand même dommage parce qu'on a raté quelque chose de merveilleux, et ils ont fait tout le temps, constamment, des ennuis. Alors Sacha, de son côté, faisait rien puisqu'il était anti-allemand à un point qu'on ne peut pas imaginer, puisque dès 1905, il interdisait que ses pièces soient jouées.
En Allemagne. Pourquoi?
Parce qu'il est né à un moment où, comme Lucien Guitry, Sarah Bernhardt et Albert Wilmette aussi, on n'avait plus l'Alsace-Lorraine. Donc, les Allemands, on ne les aimait pas tellement à l'époque. Et la Première Guerre mondiale n'a rien arrangé. Le premier film, ceux de chez nous, vous voyez Monet en train de peindre, Rodin en train de sculpter, vous voyez ce film extraordinaire. Sacha l'a fait en réponse un manifeste des intellectuels, entre guillemets, allemands, disant que notre culture était en train de tomber et qu'heureusement, ils étaient là pour pouvoir ranger les choses. Alors, il a fait ceux de chez nous pour montrer qu'on avait quand même des choses universelles. Donc, la Première Guerre mondiale n'a rien arrangé pour qu'il ne soit pas du côté des Allemands. Mais après la Première Guerre mondiale, vous avez un truc très curieux, c'est qu'il y a un phénomène de... C'est la guerre des derres, on ne va plus faire la guerre et tout. Et même Poincaré convoque Sacha Guitry en disant... Donnez vos droits en Allemagne. Et Sacha refuse. Courteline écrit, on a publié la lettre dans la biographie de Sacha Guitry que l'association a publiée, et à la réponse de Sacha, vous croyez-vous l'Allemagne a leur bon sentiment? Moi pas. C'est avant la Seconde Guerre mondiale.
Ah oui, oui.
Voilà. Et donc pendant l'occupation, c'est hallucinant, il va jusqu'à alors sortir la censure allemande d'une pièce qu'il venait d'écrire avant, qui s'appelle « Le Soir de Sterlitz ». Il l'envoie à la censure, refusée immédiatement parce qu'à l'époque, les gens avaient peu de culture. Et c'est la seule pièce qui a deux titres. Le deuxième titre, il l'envoie « Vive l'Empereur ». Ils sont bien obligés d'accepter. Et je pourrais être intéressable là-dessus.
On fait une petite pause avec une chanson. Une chanson d'Yvonne Printemps, dont on n'a pas encore parlé, mais dont qu'on va bientôt parler. « J'ai deux amants ». Sacha Guitry collectionne les épouses, vous l'avez dit, il se marie 5 fois, toujours avec des actrices. Yvonne Printemps est la deuxième et est aussi une chanteuse. Sans avoir appris la musique, elle est une grande chanteuse d'opérette. Vous qui l'avez connue, d'où lui venait ce talent?
En réalité, c'est souvent inné. Elle faisait du théâtre amateur, fait du théâtre amateur. Et à 10 ans, elle est repérée. Elle joue à 13 ans à La Cigale, où elle fait le rôle du petit chaperon rouge. Et Sacha Guitry va la voir une fois dans une imitation qu'elle fait de Sacha Guitry enfant. C'est hallucinant. Vous avez la photographie d'Yvonne imitant Sacha dans la photographie dans le livre Sacha Guitry, Yvonne Printemps. Et puis arrive le fait que Sacha et Albert, on leur demande de faire une revue ensemble, la première revue. Et Sacha est marié avec Charlotte Lizès, qui a la particularité d'avoir malheureusement une histoire avec un baryton, c'est pas une excuse. Et elle dit à Sacha et à Albert, je viens de voir une femme absolument extraordinaire sur scène au Théâtre Antoine, il faut la voir. Le lendemain, ils vont, et puis c'était Yvonne en train de chanter, et Sacha va faire que la revue s'appelle « Il faut la voir », L'apostrophe A-V-O-I-R.
Coup de foudre immédiat. Yvonne Printemps, que j'ai eu l'énorme chance de connaître pendant 20 ans, parce qu'elle adorait mon père et ma mère. C'était la meilleure amie de ma grand-mère. Mon grand-père s'était occupé d'elle tout le temps. Et elle avait un don naturel qu'elle travaillait tous les jours. C'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer encore. Et comme elle avait, quand Sacha l'a rencontrée, elle avait 20 ans. Mais elle était déjà en haut de l'affiche. Nous avons publié les affiches dans le livre. Aux Folies Bergères. Donc on a du mal à imaginer, elle a toujours été célèbre. Et elle ne faisait, son esprit est tel, une de ses phrases favorites était « bien faire et laisser dire ». Et un jour, Sévrane, qui était une grande journaliste l'interviewant avant vous, lui avait dit « mais vous avez parlé de tout ce que vous avez fait, les succès aux États-Unis, dans les choses inouïes, mais dites-moi, vous n'avez... pas parler de Sacha Guitry. » Et ça, Yvonne répond, « Je crois que vous faites une tentative d'incursion dans le domaine réservé. » Elle n'a jamais dit un seul mot pour ça. Et moi, je l'ai d'autant plus mieux connu que mon père était administrateur des bouffes parisiens, d'abord au départ, mais puis après sous la Michaudière où il était toute sa vie, et que bien sûr, c'était le théâtre d'Yvonne. Donc, je passais mon temps à la Michaudière, où je voyais Yvonne dans sa loge, dans le théâtre, au Général, je raconte ça aussi, avec Pierre Freinet à l'époque. C'était quelque chose. Et elle avait gardé sa voix intacte jusqu'à la fin de sa vie. C'est quelque chose d'absolument prodigieux. Et les bijoux inouïs qu'elle avait, que nous reproduisons dans le livre, sont des bijoux verts, sont des émeraudes. Au théâtre, la tradition veut que le verre porte malheur. Et Sacha était toujours en verre chez lui. Après tout, il y a déjà Molière. Donc, il y a des superstitions qui ne devraient pas être gardées quand même.
C'est ça. Pas besoin. Et on écoute une autre chanson interprétée par Yvonne Printemps, « Plaisir d'amour ». Yvonne Printemps cultivait un personnage de diva. Comment ça se traduisait dans la vie privée que vous avez connue ?
Dans la vie privée, elle avait toujours une voilette. Elle est toujours extrêmement bien habillée puisque Jeanne Lanvin l'habillait en entier, faisant elle-même les robes sur elle. Elle avait une passion pour Yvonne. Ma grand-mère raconte ça également. Elle parlait avec ma grand-mère 1h25 au téléphone, puisque vous avez un livre qui a été écrit, qui s'appelle « L'impromptu de Neuilly ». C'est celui-là dont on parle, dans Sacha Guitry et Yvonne Printemps, puisqu'ils ont fait venir ensemble François Perrier, Marcel Achard, Albert Villemette, Jeanne Villemette, ma grand-mère, et ils ont mis magnétophone. Et donc là, ils ont raconté leurs histoires, comment ils l'ont connu Yvonne, comment elle était dans la vie de tous les jours, etc. etc. Le problème, c'est qu'elle était... Sacha était toujours vivant, Yvonne vivait avec Pierre Freinet, qu'elle n'a jamais épousé, et faire un livre entier en hommage sur Yvonne Printemps, où les trois quarts sont dédiés à la vie merveilleuse d'Yvonne Printemps et de Sacha Guitry, c'était peut-être pas facile à faire. En revanche, mon grand-père étant un homme très organisé, il a gardé les tapuscrits, c'est-à-dire les retranscriptions des bandes magnétiques corrigées, que nous avons publié en partie dans le livre et qui nous permet de voir Yvonne dans la vie de tous les jours, extraordinairement professionnelle, n'hésitant pas dans trois valses dont on a écouté déjà un extrait, à faire un gala à Pleyel de musique dite légère, mais surtout de musique classique. C'est absolument inouï. Donc il y a du Schumann, il y a du Fauré, etc. à Pleyel, quelques jours avant trois valses, qui va être son grand succès, d'après la période Sacha Guitry. Donc c'était une femme qui avait une diction absolument extraordinaire. Et parmi une autre de ses phrases, elle disait « Il faut mieux pour les femmes être belles qu'intelligentes parce que chez les hommes, il y a plus d'idiots que d'aveugles ». Voilà.
Et l'esprit aussi, c'est normal.
Énormément. Avec ce chat, ouais. Et quand vous regarderez les discussions entre les deux racontées par les témoins de l'époque, Benjamin, Albert Villemetz, François Perrier, Marcel Achard aussi, c'est tout à fait intéressant parce qu'elle répond avec un esprit. Les grands comédiens sont toujours intelligents. Parce qu'il faut une sensibilité, il faut une intuition, il faut comprendre les intentions de l'auteur. Et un moment dans Plaisir d'amour, que l'on venait d'entendre, il avait été fait une chanson très... Il fallait souffler longtemps. On ne sait jamais quand elle respire, Yvonne, quand elle chante. Et le musicien s'était amusé à faire une chose très longue où elle continuait. Mais le flûtiste ou le clarinettiste, il n'y arrivait pas.
Ah, c'est impressionnant.
Impressionnant.
Ça demande un entraînement, un travail.
Un don plus un travail, ouais, ouais. Les deux à la fois. Elle était absolument unique. Séverane, à un moment, lui dit « Mais vous n'avez jamais eu envie de faire Manon ou de faire Carmen Je ne comprends pas, vous qui avez été dans toutes les salles les plus importantes du monde. » Oh, écoutez, j'aurais bien voulu faire Manon parce qu'on y danse, Carmen parce qu'il y a de jolies robes. Mais que voulez-vous, on ne peut pas tout faire. Alors forcément, voilà le genre de réflexion. Il ne fallait pas y aller, il ne fallait pas se laisser déborder avec elle. Elle était sur le fil du rasoir, mais constamment élégante, avec des bijoux que je n'ai jamais vus. Des bijoux qu'elle a, c'était les plus beaux qu'on puisse trouver. Et puis elle avait un magnétisme dès qu'elle était dans son théâtre, qui était quelque chose qu'on ne peut même pas imaginer. Moi qui l'avais vue depuis mon enfance, elle aimait tellement mes parents que lorsque je suis né, elle est venue les voir à la clinique où je suis né, etc. Ce n'est pas pour moi, c'est pour mes parents qu'elle adorait. Et donc, je l'ai vue tout le temps. J'ai vu chez elle à Neuilly, je l'ai vue absolument. Et quand j'ai, première fois, on m'a invité à une générale, parce que j'étais un plus grand garçon maintenant, c'était plus exactement la même femme. Et... un de mes oncles, ça lui est arrivé la même chose quand il était enfant. Il a dit à sa mère, à ma grand-mère, quand est-ce qu'elle va commencer à jouer Yvonne ? Parce que c'est pas facile de pouvoir jouer avec le même ton que celui qu'on a dans la vie de tous les jours. Et ça demande vraiment beaucoup de travail, beaucoup de dons pour pouvoir le faire.
De professionnalisme.
Voilà. En revanche, elle avait un instinct inouï et très souvent elle reprochait à Pierre Freinet d'avoir un peu moins d'instinct. Et elle, ça, je ne le ferai pas pour les mises en scène. Et elle l'engueulait en public où elle partait. Si vous voulez que je fasse ça, je pars. Et c'était absolument inouï. Et François Perrier raconte qu'elle avait raison quand il voyait le résultat final.
Petite chanson. On écoute. Alors, Albert Villemetz, dans votre livre... Claude Villemetz, je me trompe.
Albert, j'ai le même prénom que mon grand-père.
Décidément.
Il était très content que son petit-fils ait le même prénom que lui et mon père aussi.
Dans votre livre sur Sacha Guitry et Yvonne Printemps, vous annoncez avoir découvert des archives inédites permettant des révélations étonnantes sur l'un des couples les plus célèbres du théâtre français. Vous pouvez nous en donner un aperçu d'où elles viennent
Oui, en réalité, j'ai la chance, dans les archives d'Albert Villemetz, d'avoir retrouvé les tapuscrits dont je vous parlais tout à l'heure et qui détaillent la vie d'Yvonne Printemps avec toutes des informations qu'on ne peut pas imaginer. au début, c'est Marcel Achard qui dit « Oh, moi, je me souviens, la première fois que j'ai vu Yvonne Printemps, je venais à Paris, c'était dans une opérette où elle chantait telle chose. » Et Albert Wilmès répond « Oui, mon petit Marcel, c'était une chose que j'avais écrite. » Donc, il y a toutes les informations et c'est, comme on dirait, contradictoire, puisqu'ils sont tous là en train de parler. Et le premier qui dit une chose qui n'est pas sûre, l'autre lui dit « Ah ben non, je crois que c'est comme ça. » Donc, ce sont des archives extrêmement précieuses, contradictoires, et qui permettent d'éclairer le couple. Sacha, pendant plus de 10 ans, n'a jamais fait un compliment à une autre femme. Et c'est ma grand-mère, Jeanne Wilmès, qui le dit, et mon grand-père aussi. C'est rarissime. Il ne voulait pas lui faire la moindre petite peine. C'est quelque chose d'extrêmement touchant.
Comment on peut se procurer votre livre ?
Alors, vous avez plusieurs librairies, Caliani, rue de Rivoli, la librairie du Ken, où je fais souvent des dédicaces, et puis vous avez sur le site de l'association Association des amis de Sacha Guitry.com, tous les livres, avec des petits traits partout, mais si vous tapez sur le moteur de recherche, vous allez le retrouver. Et là, vous avez les livres que vous pouvez récupérer sur Amazon. C'est Amazon, mais c'est à l'immense avantage que ce soit extrêmement rapide. Et là, vous avez non seulement ces livres-là, mais une cinquantaine d'autres livres, et surtout les pièces de Sacha et les textes écrits par Sacha Guitry. Et ça, c'est une merveille parce qu'ils sont à portée de clic, si j'ose dire. Et nous avons également le musée Sacha Guitry où vous avez toutes les collections de Sacha Guitry qui sont prodigieuses. Les textes de Sacha Guitry, puis des textes sur Sarah Bernhardt, Alphonse Allais, présidé par le président de l'association des amis d'Alphonse Allais, Monet, Jules Renard et Tristan Bernhardt également. Tous ces amis proches de Sacha Guitry, des personnes qui étaient presque de la famille, et que vous pouvez récupérer sur ce site également.
On écoute Yvonne Printemps, la valse de Paris.
Je comprends les hommes, je vous comprends. Mais je m'aperçois que je ne comprends pas encore les femmes.
Personne ! N'ici pour personne ! Mais madame, c'est monsieur Offenbach.
Oh bon.
C'est un succès. Mes conseils t'ont presque trop bien réussi.
Il veut m'épouser maintenant parce que je suis une menteuse et que j'ai tout à me faire pardonner.
Je t'avais prévenu.
Et il m'a cru tout de suite, il n'a même pas douté.
Bien trop content d'être malheureux.
Mon Dieu, que les hommes sont bêtes.
Oh. Quelle idée pour une chanson. Écoute plutôt.
Mon Dieu, que les hommes sont bêtes.
Chante avec moi, ça n'est pas la conviction qui te manque.
Mon Dieu, que les hommes sont bêtes. Que les hommes sont bêtes. Que les hommes sont bêtes.
Nous pouvons le répéter plusieurs fois. C'est une chose que nous ne dirons jamais, ça c'est.
Mon Dieu.
Ici, nous allons mettre un « ah » pour te permettre de soupirer.
Mon Dieu. Que les hommes sont bêtes, sont bêtes.
Maintenant, un petit couplet sans importance. L'important, c'est le refrain. Supposons que ce soit ton bel ami qui parle, voici à peu près ce qu'il te dirait.
Je ne suis pas d'humeur jalouse, tu peux mentir, j'adore ça. Tu m'as tombé, moi je t'épouse, pardon, bouchi vite avec ya.
Pardon, bouchi vite avec ya. Tout cela me tourne la tête. C'est en faisant mal qu'on fait bien. J'avoue que je n'y comprends rien, sauf ceci.
Mon Dieu, que les hommes sont bêtes, que les hommes sont bêtes, que les hommes sont bêtes.
Merci Albert Wilmès d'être venu à Radio Courtoisie pour parler d'Yvonne Printemps, de Sacha Guitry et du travail que vous faites avec votre association.
Merci à vous.
À bientôt.
Vous venez d'entendre le libre journal de la dissidence musicale dirigé par Thierry Decruzy.
Émission préenregistrée le 15 avril 2026 et diffusée pour la première fois samedi 18 avril 2026 de 21h30 à 23h et réalisée par Michael. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5€ par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9€ ou 6€ seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.